Pourquoi Dieu n'a-t-il pas supprimé le diable? La question m'a été posée il n'y a pas longtemps lors d'une rencontre avec des lycéens. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas supprimé, n'a-t-il pas tué le diable, celui qu'on appelle le diviseur, le tentateur, l'antique ennemi? On peut penser qu'on aurait quand même moins de tentations et qu'il y aurait moins de divisions. C'est une bonne idée. Dieu n'a pas supprimé le diable parce qu'il l'a créé et il aime chacune de ses créatures. Dieu est amour. Et même le diable, créature spirituelle, surtout que c'était une de ses plus belles créatures au moment de sa création, une splendeur, c'est même ce qu'il a perdu. Trop beau, s'est trouvé trop beau. Il s'est captivé lui-même, il s'est préféré lui-même, en disant, waouh, faut que je prenne soin de moi, faut que je m'occupe de moi. Voilà ce qu'il se répète et qu'il nous susurre. Mais prends soin de toi, c'est toi qui comptes, c'est toi qui importes, occupe-toi avant tout de toi-même. Vous l'avez déjà entendu ? Silence, silence, dit Jésus. Dieu n'a pas supprimé le diable parce que ce qu'on vient d'entendre, ce commandement de Jésus, ne pas tuer, donner, pardonner, aimer jusqu'à nos ennemis, aimer ses ennemis, ce que Dieu nous commande, Dieu le pratique de toute éternité, de tout son être. Dieu est amour. Il peut nous le demander parce qu'il l'est lui-même. C'est en particulier ce qui explique que, de façon très insistante dans la Bible, et en particulier dans l'Ancien Testament, revienne cet ordre qu'on a entendu dans la première lecture. Ne le tue pas. Vous l'avez entendu, cet ordre il est enjoint par David, alors qu'il est encore chef de bande, à son second Abishai, alors que le roi Saül, qui les poursuit, qui voulaient leur perte, étaient à leur merci. Et l'autre raisonne de façon très simple, ce serait la fin de tes ennuis. Non, ne le tue pas. C'est la deuxième fois que le roi Saül se retrouve ainsi à la merci de David. C'était ici, on est au chapitre 26 du premier livre de Samuel, c'était déjà apparu au chapitre 24, deux chapitres plus tôt. Et la deuxième fois que David fait grâce, parce que tous les événements importants dans la Bible sont répétés pour que nous y fassions attention et pour que nous ne cherchions pas à en faire une lecture littérale. Et entre-temps, entre ces deux chapitres, c'est à David lui-même que le même ordre, ou plutôt la supplication est adressée, ne le tue pas. Adressée par une femme, une des plus belles de l'Ancien Testament, Abigail, dont le mari, Nabal, dont elle disait elle-même que c'était un vaurien, c'était très mal comporté. David avait décidé de faire justice lui-même, de le passer par l'épée. « Non, je t'en supplie, ne fais pas justice toi-même », avait supplié Abigail, qui était intervenue, elle intercède pour son mari, tout en sachant toutes ses limites et ses défauts. Et David écoute, et il renonce, il fait grâce. On tue beaucoup dans l'Ancien Testament. On tue beaucoup... Encore aujourd'hui, de rage, de jalousie. On tue beaucoup alors même que le commandement de Dieu, nous connaissons, tu ne tueras pas. Commandements qui ont été donnés à Moïse, qui a commencé sa vie publique, en tuant l'Égyptien qui s'en prenait à ses frères. Ne le tue pas ou ne le tuons pas. Avant Moïse, dans le livre de la Genèse, c'est Rouben, un des 12 fils de Jacob, fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui obtient de ses frères que Joseph ne soit pas mis à mort, mais vendu comme esclave, déporté en Égypte. Ne le tuons pas, ne touchons pas à sa vie. Il voulait le sauver, le ramener à son père. Ne le tue pas ou ne les tue pas. Moïse lui-même supplie le Seigneur d'épargner son peuple après la trahison du veau d'or, l'idolâtrie, le péché suprême. Il supplie le Seigneur, reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple, renonce à faire justice trop vite, laisse-nous le temps de nous convertir. L'appel à la clémence, L'appel à la clémence peut nous sembler aujourd'hui naturel. Il ne l'est pas. Ce qui est naturel, c'est le désir de vengeance. Ce désir humain de justice ou ce désir de justice humaine. Le clément est un saint. Plus qu'un pape, c'est un saint. Parce que la clémence, le pardon, la miséricorde, c'est le don de Dieu. Si vous laissez vos ennemis en vie, alors qu'ils sont à votre merci, il est peu probable qu'ils s'en souviennent et qu'ils vous en soient vraiment reconnaissants. Il est bien plus probable que s'ils peuvent, ils reprendront le combat et se retourneront contre vous dès qu'ils le pourront. En temps de guerre, alors même que l'inquiétude règne aujourd'hui en Europe, en temps de guerre, la pitié est une erreur qui se retourne très vite contre celui qui ne va pas jusqu'au bout de la victoire. Si la haine pouvait disparaître de ce monde, Satan ne serait pas damné. Et il faut que nous prenions conscience de l'originalité de l'évangile que nous avons entendu. L'originalité même de ce cri, ne le tue pas. Son originalité et son audace, la prise de risque. Le commandement de Jésus, aimez vos ennemis, en est le parfait accomplissement. Il signifie, ce n'est pas parce que les autres peuvent se comporter d'une certaine façon, ce n'est pas parce que c'est la loi de ce monde, que vous, vous pouvez en faire autant. Dans la colère suscitée par l'ampleur des crimes pédophiles dans l'Église, colère juste et presque insuffisante. On a entendu des personnes dire « Oui, il faut quand même resituer cela dans le contexte de l'époque, ne pas juger hier avec nos yeux d'aujourd'hui. » L'argument qui consiste à relativiser la gravité d'un crime au motif qu'une époque n'en aurait pas une conscience suffisante. Cet argument est possible, on va dire, pour des citoyens ordinaires. Pour des païens, disait l'Évangile, on ne peut pas dire pour des pécheurs, pour des païens. Il n'est pas acceptable pour nous chrétiens. Il n'en va pas de même pour nous disciples du Christ, qui sommes appelés par le Seigneur à ne pas faire comme les autres, à agir dans l'Esprit Saint, en enfant de Dieu, à imiter le Christ, à vivre de cette transcendance divine. Parce que c'est ce qui caractérise le saint, il transcende son époque. Il ne fait pas comme les autres parce qu'il sait, il a pris conscience de la grandeur de l'amour de Dieu, de la grâce et du secours qui lui est donné par le Seigneur. Nous disons c'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Et le saint ne dit pas « Oh, je fais ou j'ai fait comme tout le monde. » Parfois, nous prêtres, nous entendons des personnes qui sont en confession, en entretien, qui nous disent « Oh, je fais comme tout le monde. » Souvent, on dit « Ben non. » Non, non, pas, non, pas comme tout le monde. Ce n'est pas parce que c'est banalisé aujourd'hui que ça devient normal et acceptable. Ne croyez pas que, effectivement, ce qui est montré dans les médias, ce que nous vivons, ce que nous voyons autour de nous, soit la norme. Certainement pas la norme morale. Le saint ne dit pas « j'ai fait comme tout le monde », pas plus qu'il ne dit, vous connaissez cette expression, « je demande pardon à tous ceux que j'ai pu blesser ». Et hop. Il n'existe pas de pardon collectif. Vous savez, c'est l'inverse de l'absolution collective, ça. « Je demande pardon à tous ceux que j'ai pu blesser ». Pas plus qu'il n'existe de responsabilité institutionnelle. Même le mauvais riche de l'Évangile, vous connaissez la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Celui qu'on appelle ce mauvais riche, qui a laissé le pauvre mourir à sa porte, savait très bien qu'il était à sa porte et qui il était. Dans la suite de cette parabole, il l'appelle par son nom. Il supplie à Abraham de lui envoyer ce Lazare. Demande à Lazare de venir apaiser mes tourments. Envoie-le-moi de l'au-delà. Est-ce que vous croyez que c'est à cela que le Seigneur nous envoie? Est-ce que vous croyez que c'est cela la mission, d'apaiser les tourments de ceux qui ne regrettent rien? Parce que ce riche ne manifestait aucun regret. Le diable non plus n'a aucun regret. Et ce n'est pas seulement son époque que le saint transcende. Ce n'est pas seulement de notre époque, de tous ces conditionnements, de toutes ces influences dont nous devons nous libérer par la grâce de Dieu, mais fondamentalement de nos désirs et de nos pulsions. C'est ça le combat spirituel. Sinon, ce seront eux nos désirs, et en particulier les plus compulsifs, qui vont nous anéantir. La tyrannie du désir n'est pas une fiction. Tous nos désirs ne sont pas des dons de Dieu. Demandons à l'Esprit Saint, bien sûr la force du Christ, nous sommes venus la chercher, mais le discernement de l'Esprit, pour savoir quels sont les désirs susceptibles d'être menés à terme, exaucés, et quels sont ceux qui nous tueront.